explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, bord à bord à l'Évainé. Tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Parmi les noms de bateaux qui évoquent instantanément l'aventure et l'exploration, celui de l'Astrolabe figure en bonne place. Il faut dire que plusieurs navires d'exploration français mythiques ont porté ce nom à des époques différentes. L'aventure commence au siècle des Lumières, il y a un peu plus de 200 ans, avec l'illustre frégate de La Pérouse qui disparaîtra dans les confins de l'immense Pacifique sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, la corvette de l'explorateur polaire Jules Dumont-d'Urville est à son tour baptisée Astrolabe. Et beaucoup plus récemment, le nom a été attribué à un brise-glace affrété par la France pour ravitailler l'une de ses bases à l'est de l'Antarctique. Pendant 30 ans, ce bateau a participé à l'une des dernières grandes aventures de notre époque, l'exploration du continent blanc. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur ces 30 années d'épopée polaire et d'embarquer à bord de l'Astrolabe, troisième du nom, à la découverte de ce continent unique et désormais fragile qu'est l'Antarctique.
Ok les gars, voilà le plan.
Tu sais lire une carte ?
Nous ne sommes pas encore localisés.
Sur France Inter.
Ceci est notre terre !
Le temps d'un bivouac.
Tu ne trouveras pas de meilleur endroit.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac autour de la table, Daphné Burion et Stéphane Dugast. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Daniel. Bonjour.
Alors vous venez ensemble de publier un très beau livre intitulé L'Astrolabe, le passeur de l'Antarctique aux éditions EPA. Daphné Burion, vous êtes glaciologue de formation, vous avez pris ce bateau pour vous rendre à la base Dumont-d'Urville où vous avez hiverné pendant 12 mois. Vous allez nous raconter cette aventure et puis nous profiterons bien sûr des éclairages historiques de Stéphane Dugast, habitué du temps d'un bivouac, spécialiste des régions polaires et créateur du blog Embarquement dédié au monde de l'aventure et de l'exploration. Nous sommes en direct et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, changement d'ambiance, nous partirons en Italie pour une plongée au cœur de la mafia avec l'historien Jacques de Saint-Victor et Éric Valmire, journaliste à France Inter. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued.
L'expédition française pour l'Antarctique, embarquée à bord du commandant Charcot, tente pour la troisième fois d'aborder en Terre Adélie, à proximité du pôle sud. Venant d'Australie, le commandant Charcot, avant d'atteindre son point de débarquement, a été stoppé pendant 17 jours par l'imposante masse de la banquise, dont seule une reconnaissance aérienne a pu venir à bout, en indiquant une faille par laquelle le navire a pu toucher la Terre Adélie. La Terre Adélie est une parcelle de l'immense pâte glacée qui constitue le continent antarctique et où la souveraineté française fut établie en 1840 par Dumont-d'Urville. C'est sur cette étendue pratiquement inexplorée que les membres des expéditions polaires françaises ont décidé d'installer leur station de recherche scientifique. Immédiatement, relevé topographique aérien, prospection du sol et recherches météorologiques sont entreprises. Déjà, la vie s'organise et on enregistre les premières naissances. Dans la solitude blanche et glacée, 11 hommes, 11 Français travaillent.
Nous étions en 1950, voilà comment on nous parlait du renouveau de l'exploration polaire en Antarctique. Stéphane Dugast, où on en est de l'exploration polaire à ce moment-là, dans les années 50, au début des années 50?
Au début des années 50, on l'entend, c'est délicieusement suranné, c'est oui. Délicieusement aventuresque, si j'ose dire. Et on en est avec un prénommé Paul-Émile Victor, tiens donc.
Et le fameux, vous avez été biographe de Paul-Émile Victor, vous avez coécrit sa biographie
avec
sa fille Daphné Victor.
Une autre Daphné, mais Paul-Émile Victor décide de créer les expéditions polaires françaises en 47. On sort d'une guerre qui a traumatisé un nombre de Français et on a surtout besoin de reconquérir des territoires. Alors pour les pôles, ça va être Paul-Émile Victor, et cette Terra Deli, on l'a entendu dans le sonore qui a été découverte par Jules Dumont d'Urville en 1840. Depuis un siècle, les Français n'y ont pas fait grand-chose. Et là, c'est l'occasion ou jamais, en 1950, de reconquérir, on le voit, à des fins scientifiques, mais aussi à des fins quelque peu de souveraineté pour montrer le pavillon tricolore.
Et alors, tous les éléments sont chargés d'histoire. Le navire s'appelle le commandant Charcot, lui aussi important dans l'histoire de la conquête des pôles.
Oui, le commandant Charcot qui, avant-guerre, a participé, enfin, j'allais dire au début du XXe siècle, a participé à deux hivernages dans la péninsule dans l'Antarctique, donc tout à fait de l'autre côté de la Terra Deli. Et ce commandant Charcot qui, après la Première Guerre mondiale, donc avant la Seconde Guerre mondiale, va explorer l'Arctique, qui sera le père spirituel et celui qui va lancer Paul-Émile Victor. Donc on voit que Paul-Émile Victor et les polaires, les ex-polaires, comme on les appelait, les gens des expéditions polaires françaises, sont des gens qui sont garants d'une certaine tradition et qui s'appuient sur le passé pour mener leurs explorations.
Alors vous nous avez dit, il y a la péninsule antarctique et puis cette Terra Deli. On peut situer l'une et l'autre, on n'est pas forcément familier de ce grand continent blanc.
Tout à fait Daniel. Alors la péninsule antarctique, vous prenez la pointe sud de l'Amérique, donc Ushuaïa, le fameux Cap Horn, bien connu des marins et de François Gabart, votre invité d'hier. Et donc là, vous tracez une perpendiculaire et vous avez sur deux jours de mer à l'heure actuelle avec un navire de croisière. Et là, vous arrivez sur une petite pointe inversée, en fait, avec plein de petites îles, avec la calotte attenante. Et là, vous êtes en péninsule antarctique. Et par contre, vous partez carrément de l'autre côté, au sud de l'Australie, avec cette petite île, la Tasmanie. Et là, vous tracez une ligne droite. Et là, au bout de 4, 5, 6 jours, ça dépend du bateau, vous arrivez en Terra Deli. Et ce continent antarctique, c'est un continent recouvert de glace, grand comme, si ma mémoire est bonne, 28 fois la France, avec une altitude moyenne de 3800 mètres. Donc, on est dans un territoire qui, on peut le dire, dans les années 50, n'avait pratiquement pas été habité, ça c'est sûr. Il avait été juste fréquenté au début du XXe siècle avec des expéditions qui avaient été homériques avec Scott, Amundsen et compagnie.
Alors, si je vous suis bien, si je descends depuis l'Amérique latine, j'arrive sur la péninsule antarctique. Si je descends depuis l'Australie, j'arrive en Terra Deli. Pour faire la liaison Australie, plus exactement Tasmanie et Terra Deli, il y a ce bateau, l'Astrolabe, que vous avez emprunté, Daphné Buron. Vous êtes monté à bord de l'Astrolabe. C'était à quelle occasion ?
Donc oui, c'était à l'occasion donc en décembre 2011 de mon départ pour l'hivernage. Donc j'allais partir pour un an de volontariat civil. Comme voilà, volontaire chimiste à Dumont-d'Urville.
Et donc Dumont-d'Urville, le nom de la base
de la station française en Terra Deli. Et donc, pour se rendre, comme vous avez dit, à Dumont-d'Urville, on n'a pas le choix. On vole jusqu'en Tasmanie. Et ensuite, il faut prendre le bateau mythique, donc l'Astrolabe, qui nous attend sur le quai de Hobart et qui est le seul moyen de rejoindre la base. En un nombre de jours qui va dépendre un peu des conditions qu'on va avoir durant la traversée.
Ouais. Alors vous allez évidemment dans cette émission nous raconter comment se passe une traversée à bord de ce bateau qui doit traverser les 40e hurlants, les 50e rugissants. Ça secoue pas mal, surtout que ce bateau apparemment a l'air de particulièrement secouer, ce qui rajoute un petit peu encore au mal de mer. En 2017, donc l'année dernière, après 30 ans de bons et loyaux services, ce bateau, l'Astrolabe, a pris sa retraite, a été arrêté. C'est la fin de ce bateau. Et vous aviez eu une telle rencontre avec ce bateau, il vous avait tellement marqué que vous avez eu envie de lui rendre hommage en quelque sorte à ce bateau, Daphné.
Oui, c'est ça. Quand j'étais rentrée au retour, surtout, j'ai passé beaucoup de temps sur le bateau au retour qui est resté bloqué dans les glaces pendant un mois. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Longtemps après, je rêvais du bateau, enfin, on y pense très souvent en fait. Et puis je me suis toujours dit qu'il faudrait faire quelque chose au niveau, enfin voilà, pour lui rendre hommage. Et puis en fait, quand on a appris que c'était la dernière année, c'est tombé pile que j'ai été remise en contact avec le commandant du navire, qui avait été aussi le commandant quand moi j'étais à bord, et où on s'est dit, bah, si on veut lui rendre hommage, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, il sera trop tard. Mmh. Et ça a été très rapide que l'idée d'un livre déjà a été
très beau livre, hein, qui a déjà été primé, hein, d'ailleurs. Il a été salué par la critique, cet ouvrage, L'Astrolabe, le passeur de l'Antarctique. Pour vous, Stéphane Dugas, qui vous êtes associé à cette démarche, c'était aussi l'occasion, dans ce sillage, de raconter toute l'histoire de cette exploration du continent, parce que du continent blanc, c'est toute une histoire qui vous passionne.
Moi, c'est une histoire qui me passionne. Pour compléter Daphné, on peut dire que les navires ont une âme. Et ça, c'est tous les marins, tous les gens qui aiment la mer qui nous écoutent le confirmeront. Les bateaux ont quelque chose. Et j'en savais quelque chose parce que j'avais fait tout un travail sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc qui a été mythique dans la marine. Et là, l'Astrolabe, c'était autre chose. C'était un bateau civil, un navire capable de casser les glaces. Et ce qui m'a passionné dans ce travail, c'est qu'en racontant 30 ans de la vie du navire, on allait raconter l'exploration polaire. Avec la biographie de Paul-Émile Victor, je m'étais arrêté, si on peut dire, aux années 70, là où Paul-Émile Victor c'était beaucoup moins, enfin c'était plus investi, il n'était plus le chef des expéditions polaires devenu l'Institut polaire Paul-Émile Victor, l'IPEV. Mmh. Et ça, avec l'Astrolabe et grâce à Daphné, j'avais l'occasion de repoursuivre cette histoire polaire et de raconter que la France est une nation polaire, et de raconter cette science polaire, cette logistique polaire. Et quel plaisir en plus de raconter tout ça avec Daphné qui avait vécu les choses. Moi j'avais vécu d'autres choses sur d'autres mers. Et en plus, pour le clin d'œil et l'anecdote, j'avais coécrit un livre avec Daphné Victor. Et là, j'écrivais un livre avec Daphné Buiron. Oui. Donc, c'est une histoire de Daphné.
Alors, un bateau qui a charmé, vous le dites, les bateaux ont une âme. Ce bateau a charmé beaucoup des gens qui sont montés à bord. Il a charmé aussi un autre explorateur polaire bien connu, Jean-Louis Étienne, qui préface d'ailleurs votre ouvrage et qui a même un temps pensé faire l'acquisition de ce bateau.
C'est un bateau qui m'a fait longtemps rêver. Il a commencé à me faire rêver quand il a fait le passage du Nord-Est. Il me dit, tiens, c'est ce navire-là. Et à l'issue, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire avec cet astrolabe-là? J'étais intéressé pour le reprendre. Bon, l'histoire fait que je ne l'ai pas repris. Mais j'aurais été attaché à poursuivre cette histoire parce qu'il y a une communauté derrière ce bateau. Et donc j'imagine que toute cette communauté qui a navigué sur ce bateau, tout le monde a sans plaindre du mal de mer, mais tout le monde a cette histoire d'avoir conquis quelque chose, quoi.
Daphné Buiron, vous vous reconnaissez dans les propos de Jean-Louis Étienne. Tout le monde parle du mal de mer à bord de ce bateau, mais tout le monde semble avoir un vrai rapport important, un lien avec ce bateau.
Oui, c'est ça. C'est un bateau, quand on en parle dans les couloirs des labos, tout le monde rigole et puis lui donne le sobriquet que beaucoup détestent finalement de gastrolabe, comme quoi particulièrement mal de mer. En fait, après, quand on en parle à d'autres marins et puis quand on compare à d'autres navires, on se rend juste compte que finalement, oui, certes, c'est un bateau qui a du roulis parce qu'il faut qu'il ait du roulis pour passer ce genre de mer. Mais en même temps, de toute façon, même sur d'autres bateaux les plus stables qu'on peut avoir, c'est des mers agitées où de toute façon, on a des chances d'avoir le mal de mer pour peu que la mer soit un peu grosse.
Alors, qui a fait le choix de baptiser ce navire Astrolabe? Parce qu'au départ, c'est Astrolabe, on est d'accord, c'est pas Gastrolabe. Astrolabe, pourquoi on l'a baptisé ainsi et pourquoi?
Alors, cocorico, figurez-vous, puisque l'Astrolabe, donc, vous l'avez dit au début de cette émission, Daniel, c'était le nom du bateau de Jean-François Gallo, dit le comte de la Pérouse, qui était parti dans une grande expédition inspirée d'un des premiers plus grands explorateurs modernes, James Cook, mais qui est britannique. Et les Français avaient décidé d'avoir deux bateaux, l'un l'Astrolabe et l'autre la Boussole. Et cette expédition s'est perdue quelque part dans le Pacifique. Alors, il se murmurait jusqu'à ces derniers temps que c'était à Vanikoro que les naufragés avaient essayé de survivre. Récemment, des Australiens diraient que c'était plutôt, ils seraient repartis, que ce serait peut-être quelque part sur la barrière de corail au large de l'Australie. Enfin, bref.
Il y a encore tout un mystère autour de ces deux bateaux, la Boussole et l'Astrolabe. Alors, disparu en 1788, on n'a plus de nouvelles d'eux depuis cette époque-là. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour les 220 personnes qui étaient à bord.
Ce qu'on sait maintenant, puisqu'en fait, Peter Dillon, en 1840, l'Irlandais, découvre des pièces qui attestent que c'est des pièces de sabre, si ma mémoire est bonne, françaises. On découvre de l'argenterie. On sait que les navires, en tout cas, ont fait naufrage au large de Vanikoro, aux îles Salomon. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'ont fait les naufragés, puisqu'ils sont au contact de gens qui sont, pour le moins, peut-être un petit peu hostiles vis-à-vis d'eux. Et peut-être, vraisemblablement, qu'ils seraient repartis, on ne le sait pas. Enfin, le mystère a été un peu épaissi ces dernières années par une grande enquête avec la Marine Nationale, un film d'Yves Bourgeois, le mystère de Vanikoro. C'est relancé par des amis australiens. Toujours est-il que l'Astrolabe et la Boussole disparaissent, que même le roi Louis XVI, en montant sur l'échafaud, aurait demandé des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? Et qu'on va armer une expédition. Mais alors, on n'est pas à l'époque de l'Internet, on va mettre du temps. Et en 1830, dans les années 1830-1840, Jules Dumont-Durville repart à bord du bateau qui s'appelle au départ la Zélée, qu'il rebaptise l'Astrolabe en hommage au comte de la Pérouse. Et on a cette saga de l'Astrolabe. Ouais. Et quand la France va avoir besoin en 88 d'un nouveau navire polaire, puisque jusque-là, on les louait, eh ben on va baptiser le bateau l'Astrolabe. Donc oui, cocorico, on peut dire qu'en France, il y a une tradition maritime de l'Astrolabe depuis 230 ans.
Alors l'histoire de l'Astrolabe, troisième du nom, s'est terminée beaucoup moins tristement que celle du premier Astrolabe. Nous allons découvrir comment ce brise-glace a participé aux expéditions scientifiques en Antarctique au cours des 30 dernières années. On embarque avec Daphné Buiron et Stéphane Dugast pour le continent blanc, le temps d'un bivouac jusqu'à 17h. Nous sommes en direct et pour nous adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook.
On fumait des gauloises bleues, les beaux jours. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Petite femme de Paris montait sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'Aisne, parfois je voyais Verlaine. Ah, les beaux jours. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Jefferson Airplane s'installait à la présidence, car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutique à music hall, au boulevard du rock'n'roll. Ah, les beaux jours. Le temps a passé, court-circuité les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du Clichy. Arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Ah, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison.
Gauloise bleue au son de la guitare de Clou sur France Inter, le temps d'un bivouac.
J'entends le vent, le timbre de la clochette en haut des mâts. Ils seront désormais nos seuls bruits familiers. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. Dans notre fièvre à enfin lancer nos études, nous négligeons notre installation. Tout est à faire ici. Jamais un scientifique n'a recueilli la moindre donnée météo ou géophysique. Nous avons la foi des pionniers. J'éprouve une joie intense à chaque mesure, à chaque observation, doublée de la fierté d'être le premier.
Extrait du film de Luc Jacquet, La glace et le ciel, qui prête ses mots au célèbre glaciologue Claude Lorius. Autour de la table, Stéphane Dugast et Daphné Buiron, qui signent un ouvrage intitulé L'Astrolabe, le passeur de l'Antarctique, aux éditions EPA. Stéphane Dugast, Claude Lorius, d'ailleurs il le dit, c'est comme ça qu'il le sent, hein, son aventure, ses premiers pas en Antarctique. C'est un des pionniers qui a relancé l'intérêt, il fait partie de ceux qui ont relancé l'intérêt pour ce continent, et qui a vu tout l'intérêt pour comprendre ce qui est en train de se jouer au niveau du climat.
C'est un des pionniers qui a été envoyé par Polémis Victor, mais on parle de Claude Lorius, de Polémis Victor, mais ils ont été des centaines à aller d'abord au Groenland, puis dans un mouvement de balancier aussi en Antarctique, Antarctique-Groenland, puis rapidement plus qu'en Antarctique, en Terra Adélie et à la base du Mont d'Urville, DDU. Et ils vont faire partie de ces gens qui sont avec des pulls en laine. On est sans Gore-Tex, on est vraiment avec les technologies des années 50, des boîtes de conserve, et qui vont durer sur la glace, qui vont habiter durablement avec des conditions épouvantables, des vents qui peuvent souffler très 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 fort, des températures qui peuvent chuter jusqu'à des moins 60, voire pire. Et ces gens-là vont le faire pour la science, avec une abnégation, un courage, la foi des premiers, et c'est ce qui va permettre à la France polaire d'exister et d'avoir des mesures scientifiques et de comprendre que cette grande masse de glace en Antarctique joue un rôle sur le climat de la planète, ce qui est complètement novateur dès les années 50.
Alors vous, Daphné Buiron, c'est en 2011 que vous avez fait ce grand voyage pour aller hiverner pendant 12 mois sur la base de Dumont d'Urville en Antarctique, mais vous vous inscrivez dans la lignée des prédécesseurs dont fait partie Claude Lorius. Est-ce qu'il a été un inspirateur pour vous? Je rappelle que vous êtes glaciologue également.
Oui, tout à fait. Quand j'étais, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à l'Antarctique et à la glaciologie alors que j'étais au lycée encore, j'avais 16 ans. Et c'était à l'époque où justement c'était le début en tout cas de toute la communication autour des sciences des carottes de glace qui commençait à être reconnue et puis qui allait donner de grandes choses dans les années à venir. Et Claude Lorius était le porteur un peu de tout ce mouvement, celui en tout cas qui diffusait l'information, et j'étais allée le voir, bien sûr, donc en conférence à Lyon à l'époque, pour essayer de conforter, voir si c'était ça qui m'intéressait. Et effectivement, j'étais sortie de la conférence complètement convaincue. Ouais. C'était un héros à l'époque, et en suivant, cet objectif, quelques années plus tard, je me retrouvais en stage dans le laboratoire de glaciologie où il travaillait encore. On s'est croisés quelques fois, avant qu'il parte à la retraite. Clairement, ouais, sur ses traces, et clairement inspirateur.
Alors, vous partez donc en 2011 pour la Terre Adélie à bord de ce bateau, l'Astrolabe. Quelle est votre mission scientifiquement? Qu'est-ce qu'on vous demande d'aller faire là-bas, dans la base du Mont d'Urville?
Donc en fait, il y a des mesures qui sont faites en continu. C'est un observatoire avant tout du Mont d'Urville. Ça veut dire qu'on cherche vraiment à avoir des données sur le long terme. Ouais. Donc chaque volontaire, en général, c'est des jeunes volontaires scientifiques qui partent un an comme ça hiverner. Donc effectivement, est envoyé pour une mission précise par un laboratoire. Et donc moi, j'étais envoyée par le laboratoire de glaciologie pour le programme de chimie de l'atmosphère et de glaciologie. Et donc c'était de tous les jours, on était deux dans ce cadre-là, et tous les jours on avait des échantillonnages de l'air. En fait, c'est vraiment l'analyse de l'air autour de la base, ouais, à faire, à analyser pour suivre le cycle du soufre. Et puis une fois par mois, on allait à 5 km de là sur le glacier Astrolabe pour relever la hauteur des balises d'accumulation du glacier, qui est aussi un glacier qui est suivi par ce laboratoire. Donc voilà, ça c'était nos missions, plus la maintenance du laboratoire, ouais, des différents instruments. Ouais. Sachant que le mieux c'était de profiter du temps libre pour aller aider surtout les biologistes.
Ouais, alors on verra comment ça s'est passé sur place. N'allons pas trop vite parce que il y a d'abord cette traversée, je le disais, des 40e hurlant, des 50e rugissant. Alors d'abord, vous prenez l'avion pour aller jusqu'à la pointe la plus sud de l'Australie, en Tasmanie, et là vous montez à bord du bateau, donc début 2011. Vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous êtes avant de monter à bord de ce bateau? Vous êtes excité, vous êtes anxieuse, vous savez que vous allez ne pas revoir vos proches pendant 12 mois et vous montez sur ce bateau qui a la réputation de secouer particulièrement. Dans quel état d'esprit vous êtes?
Donc, je suis super heureuse. Ouais. Je suis fatiguée, effectivement, parce qu'on a 3 jours d'avion qui viennent de s'enchaîner, en général. Ouais. Et puis, ça fait des années qu'on attend ce moment. Ce bateau, c'est le symbole du fait qu'on va vraiment en Antarctique. Et là, d'un coup, on prend conscience d'où on va. Ouais. Effectivement, que c'est un truc un peu de fou, quand même, de monter. On sait pas, on va vraiment vers l'inconnu. Alors, pas du tout d'anxiété ou de tristesse de laisser des proches. On sait que c'est une année, ça passe vite, que ça fait longtemps qu'on l'attend. Donc, c'est vraiment juste de l'excitation et puis de la joie, de la hâte de voir comment ça va se passer, effectivement.
Ouais. Et alors, comment ça se passe à bord pour l'aller? Ça a été très différent, l'aller et le retour. Alors, on va commencer par l'aller. Je crois qu'il a fait beau et que ça s'est plutôt bien passé, l'aller.
L'aller idyllique, le plus bel aller qu'on peut imaginer. On a quand même, j'ai quand même été malade le deuxième jour, malgré que ce soit idyllique.
Mais tout le monde est malade à bord de ce bateau.
Tout le monde est brassé, en tout cas, plus ou moins... voilà, à certains niveaux, mais on n'a pas eu de grosses tempêtes, on va dire, à l'aller, qui ont vraiment... Parfois, il y a des tempêtes assez terribles où là, clairement, plus personne ne peut se lever. Là, la mer était belle, donc oui, elle danse. Donc dès qu'elle danse, on a un peu le mal de mer, donc on l'a au début, en tout cas. Et puis après, on passe ce passage, effectivement, où ça bouge, mais où c'est bien bleu et où bon, on reste, on dort dans notre banette, quoi. Ouais. Clairement, on dort, on mange et on dort.
Et puis arrive le
après,
moment
voilà,
où...
Et voilà, la glace arrive. Ouais. Donc ça, c'est le moment vraiment symbolique. On voit des petits glaçons et là, on se dit, ça y est, on arrive. Et en fait, le fait qu'il y ait de la glace calme les vagues. Et à partir de ce moment-là, bon, déjà, on est un peu amariné. Et puis, à partir de ce moment-là, l'océan, s'il n'y a pas de tempête, est vraiment plus calme. Ouais. Et donc, là, on n'a plus de raison d'être malade, on passe plus de temps dehors. Ouais.
Plus calme, mais ça reste délicat de piloter à travers ces glaces. Démonstration avec Stanislas Devorzin, aux commandes de l'Astrolabe.
Bah, la première difficulté, c'est de ne pas abîmer le bateau, parce qu'il y a moyen de le casser dans ces conditions-là. Et ensuite, c'est de trouver simplement son chemin. Globalement, on essaye de se tracer un chemin sur 100 mètres, 200 mètres devant le navire, jusqu'où... mes yeux peuvent porter et plutôt que de faire des tas de virages dans tous les sens, par moment il vaut mieux casser une bonne plaque bien en deux et on perd moins de temps.
C'est tout un art, hein, Stéphane Dugast, la navigation dans les glaces.
C'est tout un art et ça l'est d'autant plus que l'Astrolabe officiellement, en tout cas le troisième du nom, n'était pas un brise-glace au sens maritime du terme. Néanmoins, il était capable de briser une glace d'une épaisseur de 1 mètre. Donc, dans le langage technique, il était classé IB5. Nous, pour des raisons de commodité, parce qu'en termes de littérature, c'est quand même plus sympa de mettre brise-glace et puis mince, il casse la glace. Mais il faut savoir qu'en fait, les bateaux sont classés en fonction de l'épaisseur de la glace qu'ils peuvent casser. Et pour compléter le propos de Daphné sur cet embarquement, en fait, cet embarquement, il a tous les ingrédients d'un bon film. Ouais. Vous quittez la civilisation, vous êtes un peu anxieux, vous allez vous installer pendant hiverner loin des vôtres pendant un an, dans quelque chose, un territoire qui est hostile. Vous traversez les 40e hurlant, les 50e rugissant. Alors, Daphné a été vénarde parce que ça a été un temps de curé, diraient les marins, ou presque. Et vous arrivez, vous avez les glaces, et les glaces qui peuvent vous bloquer. Et vous avez ce continent blanc qui s'offre à vous, ces monts blancs, cette pureté. Et c'est ça la promesse d'une belle aventure.
Alors, les glaces peuvent vous bloquer. Vous avez été chanceuse, Daphné, à l'aller. Mais au retour, vous y avez eu droit au fait de vous retrouver prisonnière, vous et tout l'équipage, des glaces. Comment ça s'est passé?
Oui, bah au retour, effectivement, pas loin de... Donc déjà, c'était le retour d'hivernage, donc on revient d'un an, il y en a qui sont déjà repartis, donc on n'est pas du tout dans le même état d'esprit qu'à l'aller.
Ouais.
Et bon, on n'était pas très nombreux à bord, heureusement, et effectivement, à peine quelques heures après le départ, on va dire, ou même une journée maximum de navigation après DDU, on s'est retrouvé face à un mur de glace complet, et là, le bateau s'est engouffré dedans, et puis il n'y a plus moyen de ressortir. La glace est vraiment refermée autour, c'était une sorte de bouillie. Ouais. Et puis, il ne faisait pas beau non plus, donc c'était brouillard et on ne voyait rien.
Et vous êtes resté coincé combien de temps alors?
Un mois.
Un mois. Et c'était pendant la
période. Voilà.
Vous avez passé le Noël et le jour de l'an à bord de ce bateau, coincé dans les glaces au milieu de nulle part. Quelle était l'ambiance à bord?
Bah, un peu tendu, en fait. Bah, ça dépendait des personnes. Les gens ne se parlaient pas trop. Je pense que tout le monde avait besoin de rester un peu dans son coin. Et puis surtout, on n'a aucune idée de quand est-ce que le bateau va sortir. Donc tous les jours, on se dit, bon, allez, c'est pour demain, on y croit. Et puis le lendemain, non. Et puis le lendemain, non. Alors les fêtes de Noël ont aidé à passer. Ça nous a occupés. On a célébré, on a fait des déguisements. Le jour de l'an aussi. Et on s'était dit, par contre, psychologiquement, ça commence à être vraiment très long. Les journées sont extrêmement longues. On fait tout lentement pour que ça passe. On fait que dormir, on attend les repas. Et on s'est dit, après le jour de l'an, il faudra qu'il se passe quelque chose. Sinon, là, déjà, on commençait à avoir moins de nourriture.
Oui, il y avait suffisamment de vivres à bord pour tenir comme ça.
Oui, pendant... enfin, les derniers jours, on commençait à rationner un peu les produits frais. Ouais. Et en fait, ben, voilà, le 2 janvier,
vous avez
juste
été
le temps
libéré.
De se remettre, là, on s'est levé le matin, il y avait une route, alors qu'il n'y a pas eu de tempête, rien qui laissait de présager que la glace allait d'elle-même s'ouvrir ce jour-là, alors qu'on avait tout essayé avant pour la bouger.
Ouais.
Et ce jour-là, on s'est levé, il y avait une route devant le bateau, quoi, et c'était bon, c'était fini.
Stéphane Dugast, des coups de tempête, hein, des coups durs, comme on parle en mer, on parle de fortune de mer quand il y a des accidents. L'Astrolabe en a connu.
Évidemment, vous êtes entre les 40e rugissant, les 50e hurlant. Vous avez des épisodes qu'on a racontés grâce à une enquête de Daphné, des témoignages qu'on a recueillis, mais complètement incroyables, avec une porte ouverte, l'eau qui s'engouffrait, enfin des choses qu'il faut vraiment lire pour mieux les faire comprendre. Et d'autant plus qu'en fait, vous êtes loin de tout. Vous n'avez pas des secours pour venir d'un coup d'hélicoptère, d'un coup d'avion de patrouille maritime vous aider. Vous êtes dans des mers redoutées, notamment d'ailleurs aussi des concurrents du Vendée Globe et de François Gabart, de ses amis, et vous êtes dans un univers qui ne pardonne rien, et en plus, pour compliquer la chose, vous avez des glaces, et vous avez aussi cette vague scélérate, moi j'y croyais pas, ces murs d'eau de temps en temps qui sont face à vous, puisqu'en fait, autour du continent antarctique, vous avez un courant qui n'arrêtait pratiquement pas rien, et donc j'ai eu confirmation, une nouvelle fois, qu'il y avait vraiment des fois des murs de vagues, et quand vous prenez un mur de vagues sur, pas le coin du nez, mais sur le coin de la proue, les choses se passent mal.
Donc là, un mur d'ailleurs, les vagues scélérates, ça reste apparemment quelque chose qui arrive, mais quelque chose de très mal connu. Hein. Pendant un moment, on se demandait est-ce que c'est un mythe, est-ce que ça existe ou pas. Apparemment, l'astrolabe, on a vu une de vagues scélérates.
Voilà, ça fait deux fois. J'avais fait un livre il y a 10 ans sur la Jeanne d'Arc. On m'a dit que la Jeanne d'Arc avait un pont qui était de plus haut de 16 mètres au-dessus de l'eau, avait eu les vitres éclatées, que c'était une vague scélérate. Ouais. J'ai enquêté comme un fou pour savoir ce que je n'y croyais pas. Ouais. J'ai vu les témoignages, j'ai vu les photos. Et là, pareil sur l'astrolabe où il y a eu dans une tempête. Et pour avoir contacté le spécialiste ou les spécialistes des vagues scélérates, il y en a beaucoup outre-Atlantique. Oui, apparemment, et c'est assez difficile à prédire, assez difficile à comprendre. En tout cas, pour les gens qui aiment écrire, les gens qui aiment lire, c'est ouais. juste un plaisir parce que vous avez tous les ingrédients d'un bon Moby Dick.
Allez, dans un instant, nous allons enfin accoster en Terra Adélie avec vous, Daphné Buron et Stéphane Dugast. Vous avez, Daphné, hiverné 12 mois dans la base scientifique du Mont d'Urville et vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter. Soul Syncable, c'était Sève d'Alisa sur France Inter.
18 février, il est 8h du matin. Depuis déjà plus d'une heure, le bateau a abordé le continent antarctique. Et nous sommes sur le pont fascinés comme des petites mouches par la somptuosité du paysage. Il y a des montagnes à l'horizon couvertes de neige. Descendent à pic. Oh là là, là on voit passer, il y a des pingouins qui sont sur des bouts d'iceberg. C'est totalement extraordinaire. Il y a des bouts de glace partout qui flottent de toutes les couleurs, enfin dans les tons de gris, de turquoise, de blanc. Là, devant moi, il y a un gros bout d'iceberg tout turquoise, tout autour des tout petits bouts qui flottent partout. Au fond, une énorme rocher noir couvert de neige. Et on continue, on voit ça à l'infini, tout au bout. Le temps est beau. Il y a du bleu dans le ciel, il y a des grandes traînées grises, mais il y a des grandes plages de bleu. Enfin, c'est une symphonie pour un continent gris, blanc et bleu.
Ça y est, nous accostons sur le continent Antarctique, extrait d'Échappée belle sur France Culture en 1993. Nous sommes toujours avec Daphné Buiron et Stéphane Dugast, auteurs de L'Astrolabe, le passeur de l'Antarctique aux éditions EPA. Alors je ne sais pas, Daphné Buiron, si votre arrivée en Antarctique ressemble à ce qui est décrit dans cet extrait qu'on vient d'entendre.
Oui, parce que c'était effectivement un temps idyllique. On est arrivé, mer très calme, le ciel bleu, les manchots sur les bouts de glace, ouais. Les phoques, des icebergs tout autour, et puis devant soi. Alors nous, c'était pas des montagnes, ça c'est plutôt en péninsule, mais autour à l'arrivée à Dumont-d'Urville est sur une île, donc c'est un archipel de petites îles, donc de petits rochers au loin, et puis au fond, on distinguait l'ombre de la grande calotte lisse, ronde, comme ça. Donc c'est assez féerique. Ouais. Par contre, oui, on...
Stéphane Dugast.
Oui, c'est juste une précision sémantique qui est d'importance quand on parle à des gens qui aiment le polaire. C'est que
vous allez me parler des manchots.
Elle parlait des manchots. Daphné a bien dit manchot et la dame a dit pingouin. Pingouin, c'est pour les Anglais. Penguin, c'est pour les Français, c'est manchot. Et en plus, il y en a de plein d'espèces. Et c'est vrai que quand on va en Antarctique, notamment en péninsule, et même aussi également à DDU, en Terre Adélie, parce que la base française était attenante à une rouquerie, donc à un regroupement de manchots empereurs qu'on connaît très bien, car grâce à Luc Jacquet, la marche de l'empereur, on connaît maintenant ses manchots et non pas ses pingouins.
Donc les pingouins, on les trouve côté arctique, hein, côté pôle nord. Là, c'était donc bien des manchots. Décrivez-nous un peu cette base Dumont-d'Urville dans laquelle, Daphné Buiron, vous avez passé un an, 12 mois dans cette base coupée du monde. Pas tout à fait, il y a quand même des moyens techniques pour communiquer. Il nous est même arrivé dans cette émission d'avoir des scientifiques en hivernage, soit à Dumont-d'Urville ou sur une autre base antarctique. Mais à quoi ressemble-t-elle cette base antarctique ?
Elle reste dans l'image légendaire un peu qu'on s'en fait, dans le sens où pour l'instant la majorité des bâtiments sont encore les bâtiments d'époque des années 60, donc en préfabriqué orange, bien à l'ancienne quand on arrive. Alors maintenant, ils sont rénovés à l'intérieur. Certains sont en cours de rénovation. Quand on est arrivé, certains étaient encore bien anciens. Mais bien sûr, avec beaucoup plus de moyens de communication. Maintenant, on a le téléphone. On n'avait pas Internet, mais on avait une boîte mail qui nous permettait d'envoyer des mails. Mmh. Et sinon, ce qui marque, c'est que c'est minuscule dans le sens où c'est donc une île très petite, vraiment 500 mètres sur 900 mètres, je crois. Mmh. Et qui est en été, donc effectivement entouré d'eau puisque la banquise fond, donc on est un peu bloqué sur l'île si on n'a pas d'hélicoptère pour bouger. Et puis en plus recouverte d'une colonie immense de manchots adélie, donc ces petits manchots qui sont chez eux, et c'est nous qui sommes chez eux, et donc qui sont très bruyants autour de nous, donc c'est avant tout une cacophonie.
Ce sont des sons que vous avez enregistrés, hein, ces manchots qu'on entend, la cacophonie dont vous parlez.
Oui, c'est ça, les manchots adélie, et plus tous les oiseaux, là il y avait aussi les pétrels des neiges qui nichent tout autour, donc en été, l'île est recouverte, on est dans un poulailler en fait, on est vraiment dans un poulailler, l'odeur qui va avec également.
Ah oui, ouais. Vous pensiez être au calme, coupé du monde, et vous vous retrouvez, c'est plus bruyant qu'à côté du périph' en fait.
Ah oui, complètement, sous les fenêtres, ils sont partout, et puis ils sont prioritaires, donc on marche sur des rails un peu métalliques pour pas évidemment traverser la manchotière et marcher sur les nids, les œufs. On arrive en plein été, donc il y a les poussins qui sont là, qui sont déjà un peu grands. Les empereurs, il n'y en a presque plus parce que comme ils sont décalés dans leur cycle, les poussins sont déjà pratiquement partis à l'eau. Quand on arrive, on les retrouve en hiver. Donc en été, voilà, c'est ça, c'est petit, il y a du monde parce qu'il y a tous les estivants, on est une centaine de personnes sur une base qui n'est vraiment pas faite pour ça. Alors qu'en hiver, tout le monde s'en va et finalement on se retrouve à 28. Et puis au bout d'un moment, les oiseaux s'en vont, les manchots s'en vont, plus personne ne veut vivre ici. Ouais. Et puis un matin, les empereurs arrivent et ils vont passer l'hiver avec nous. Et ça, c'est quelque chose de vraiment précieux.
Changement de manchots avec le changement de saison.
Complètement.
Ça alors. Stéphane Dugast, vous aviez envie de réagir, j'avais l'impression.
Oui, parce qu'en fait, c'est juste pour compléter. Quand Daphné dit l'été, il n'y a pas la plage, hein, c'est entouré de glace. Et l'autre information, c'est que les Français ont décidé de s'établir à l'île des Pétrels, donc l'endroit historique où Dumont-d'Urville avait découvert le continent antarctique qui est présent à quelques kilomètres. Et ça a été pour des questions logistiques. Et c'est ce qui d'ailleurs explique pourquoi ça a toujours été ravitaillé par un bateau qui n'était pas avec ce qu'on appelle un tirant d'eau, donc qui n'était pas profond dans l'eau parce qu'il fallait qu'il s'approche de ces rochers. Qu'on n'a pas fait le choix parce que certains diront pourquoi on ne ravitaille pas avec des gros avions qui pourraient se poser sur la banquise, parce que la base française, et c'est sur cette petite île. On en a une deuxième qu'on partage avec les Italiens Concordia à l'intérieur du continent, et on organise une grande noria avec d'immenses tractopelles qui vont ravitailler cette base à l'intérieur du continent. Et sur ce continent antarctique, pour compléter, être vraiment complet, vous avez toutes les nations de la planète qui sont là, puisque c'est le seul continent de terre et de science qui n'appartient à personne, qui est protégé par un traité, normalement jusqu'en 2048, où on n'a pas le droit de l'exploiter économiquement, et j'allais même dire on n'a pas le droit de l'occuper militairement. Et vous avez tout autour des bases russes, des bases américaines, sud-coréennes, maintenant chinoises, indiennes, etc., etc.
Une collaboration internationale se joue au milieu de ce continent blanc. Combien vous étiez, Daphné Buiron, pour votre hivernage à bord de cette station Dumont-d'Urville, qui a l'air assez spartiate à vous entendre la décrire?
Après, une fois que tout le monde est parti, elle devient très confortable. On retrouve chacun sa chambre, on peut s'étaler, on a de la place dans les locaux. Et donc, nous, on était 28. Ouais. On avait eu la chance cette année-là d'hiverner avec un couple australien de la BBC, des journalistes qui, en fait, faisaient un reportage sur les manchots empereurs avec une technologie très avancée de caméras cachées, déguisées en manchots, et qui ont passé le plus clair de l'année dans toutes les conditions, dehors, à filmer, à faire des images impressionnantes. Et donc voilà, 28 personnes, la moitié à peu près de scientifiques, la moitié de techniciens, donc qui sont là pour, bien sûr, la maintenance et puis le fonctionnement de la base de tous les jours. Et puis 4 filles sur 28.
Ah oui, vous le précisez parce que ça a été difficile à vivre, le fait d'être en si petit nombre, les filles, d'être un peu moins nombreuses que les garçons dans cette base.
Non, pas spécialement, mais c'est bon à noter parce qu'il n'y a encore pas tant d'années il n'y en avait pas du tout.
Oui, donc ça range un peu, mais on peut encore jouer un peu pour la parité. Comment c'est organisé tout ça? Parce que vous dites on n'est pas nombreux, mais quand tout se passe bien, bon voilà, ça va. Mais si quelqu'un tombe malade, s'il y a un accident, s'il faut rapatrier, comment c'est géré? S'il y a un conflit, tout simplement, s'il y a un conflit d'ordre presque juridique, hein, quelqu'un qui se comporte mal, qui en agresse un autre, comment on s'organise quand on est tout seul au milieu de nulle part? Il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas d'hôpital.
Alors il n'y a pas de commissariat, mais la base est gérée par le chef de base, qui a tous les pouvoirs, entre guillemets. Donc c'est vraiment lui qui gère administrativement, et puis tous les conflits, c'est qui est envoyé par l'ETAF et non pas par un laboratoire. Donc il est vraiment là dans le rôle.
Donc l'ETAF, c'est les terres australes et antarctiques françaises.
Pardon. Et donc lui, il a vraiment le rôle du maire, entre guillemets, donc sur la base. Et c'est à lui que revient toutes les décisions autour de la sécurité. Donc après, on discute ensemble, mais c'est quand même lui qui prend les décisions de quand est-ce qu'on a le droit enfin d'aller marcher sur la banquise, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qui remet les choses à leur place quand elles ont besoin d'être remises à leur place. Donc en fait, c'est vrai que c'est là où toute l'ambiance de l'hivernage se joue finalement, et nous on a eu de la chance d'avoir quelqu'un qui était assez juste et ferme. Il faut quelqu'un qui puisse tenir la baraque tout en permettant de faire des choses. Et puis il y a le médecin derrière, qui est l'autre personne vraiment importante, qui l'aide beaucoup aussi, donc le chef de base dans ses décisions, donc qui lui est un médecin généraliste mais formé un peu en dernière minute à toutes les spécialités. Il doit savoir réparer une carie, recoudre un bras et opérer si besoin.
Mais quelle lourde pression pour cette personne, et puis en plus si c'est lui qui doit se faire opérer, il est foutu.
On a fait ça assez sérieusement, de former une équipe médicale. Les premiers mois on s'est amusé, entre guillemets, lui nous a formés à avoir chacun un rôle pour une dizaine de personnes si jamais on devait vraiment opérer, puisqu'il y a un bloc opératoire. D'accord. Alors heureusement on n'a jamais eu à le faire. Savoir s'habiller propre, mettre en route le bloc, faire une anesthésie.
D'accord. Donc c'est tout le reste de l'équipe qui opère le médecin si jamais il lui arrive quelque chose. Stéphane Dugast.
Il ne faut pas avoir à le faire.
Et puis alors deux choses, il ne faut pas oublier qu'il y a il y a d'autres bases autour. Donc il y a une solidarité qui prévaut quand on est en mer. Et pour compléter, on est sur des modèles, sur des huis clos, où vous êtes avec des communautés d'hommes, longtemps d'hommes, maintenant des hommes et des femmes. Donc Daphné l'a dit, il y a un chef avec qui qui est exigeant et bienveillant, et c'est ça qui fait les bons chefs, qui est les bons managers en tout cas. Mmh. Et vous avez c'est un modèle de huis clos qui peut se rapprocher de ce qu'on vit sur les bateaux, ouais. sur les gros bateaux, les bateaux militaires, les bateaux de commerce ou les bateaux de plaisance, et qui se rapproche aussi de la conquête spatiale, parce que quand vous êtes, et c'est pas Thomas Pesquet et ses amis qu'on va on va lui demander tout ça, mais c'est la même chose. Vous êtes dans un huis clos et vous êtes loin des premiers secours. Mmh. Et je pense qu'avec de l'exigence, de la bienveillance et beaucoup d'intelligence, tout se passe bien. La preuve, Daphné vient de nous dire que
ça s'était bien passé. C'était bien passé. A priori, il n'y a pas eu
de catastrophe. Tout le monde est rentré.
Pour revenir à ce fil rouge de notre émission, l'Astrolabe, là encore, il a un rôle très important parce que c'est lui qui rythme un peu. Il est attendu. On imagine ce bateau qui apporte le courrier, qui apporte la nourriture plus fraîche, qui apporte des nouvelles. Il a vraiment. C'est votre dernier cordon avec le reste de la civilisation, ce bateau.
Oui, complètement. Bah, c'est à lui, de toute façon, qu'on doit le fonctionnement de la base, hein, puisqu'il apporte le fuel, déjà, qui est nécessaire pour toute l'électricité, le chauffage en hiver, plus le ravitaillement de la nourriture, du courrier, comme vous avez dit, du personnel. Donc, pendant l'été, il fait 5 rotations. Donc, 5 fois, il arrive à Dumont-d'Urville avec du matériel et des nouvelles personnes. Et puis, il repart sur Hobart, en Tasmanie, et il revient. Voilà. Donc, il fait 5 fois l'aller-retour pour amener le maximum de choses. Et puis ensuite, ben, à la fin de la cinquième, on le regarde partir avec tous les derniers. Et là, on se dit, bon, ben, cette fois, on le revoit dans 8 mois.
Eh oui.
Et en fait, bon, quand tout se passe bien, ces 8 mois passent plutôt vite. Et au final, quand on le voit un matin, on ne sait jamais trop exactement quand, mais on le voit apparaître au mois de novembre, au loin, à travers des glaces. Et puis on sait que, ben, à la fois, alors on est content, les fruits frais arrivent. Généralement, ça manque depuis quelques semaines, même s'il y a quand même surgelé, il y a le courrier, les colis. Mais en même temps, bah, ça veut dire que c'est fini et puis que d'autres personnes viennent envahir en fait, ce qui est devenu un peu votre monde et qu'il est temps de rentrer.
Suite et fin de notre exploration, on ne rentre pas encore tout de suite. Vous allez dans un instant, Daphné Buron et Stéphane Dugast, nous dire ce qu'est devenu l'Astrolabe, par quoi il sera remplacé et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous. As a child, I was scared of grey ghosts. Scared of grey ghosts. The ones I saw.
It's over now.
It keeps me awake, believing their prayers. Even if I'm gonna drop out, there's no shadow of a doubt. I'm a headache. As you tell me, everything hurts me more. Has broken your patience and unspoken words make me feel like I'm unwelcome. If I had the choice, I'd end my way of life to misspend your time, but could you lend me a hand?
It keeps me awake, believing big brains, even if I'm a dropout.
Me more.
I'm a
C'était Saturday Canine sur France Inter dans le temps d'un bivouac et on continue de sympathiser encore un instant avec les manchots en terre Adélie.
Ça y est, ils sont partis. En arrivant, j'ai mis un coup de jumelle, ils étaient toujours là, ils n'avaient pas bougé de leur petit bout de neige où ils étaient là. Bon, ça a pinaillé jusqu'à 10h, 10h30. Et ce qui était assez génial, c'est que bah, comme ça fait longtemps que je suis là, ils avaient complètement pris l'habitude, ils me suivaient, c'était assez dingue quoi. Ils avaient plus du tout peur de moi. Et je trouvais ça super émouvant de les voir. Là, je leur ai parlé un peu, je deviens peut-être un peu timbré, mais bon. Je me disais, bon bah voilà, c'est probablement aujourd'hui que vous allez partir et je vais probablement jamais vous revoir. Et ça faisait quelque chose, ces petites bestioles, ouais. Et tant qu'ils n'ont pas envie d'y aller, ça dure des heures. Vas-y, que je m'approche, que je change de site, est-ce que là ça va bien? Je pensais que c'était les adultes qui les entraînaient, mais en fait pas du tout. C'est vraiment eux qui ont envie d'y aller.
Le réalisateur de L'Empereur, Luc Jacquet, attendri par ses échanges avec les petits manchots quelque part en Antarctique, probablement pas loin de Dumont-d'Urville, cette base scientifique où vous avez séjourné pendant un an, Daphné Buiron. Est-ce que vous avez eu ce genre de relation avec des manchots, vous aussi? Vous avez eu l'impression qu'ils vous suivaient, qu'il y avait cette curiosité, qu'ils étaient aussi intrigués par vous que vous l'étiez par eux?
Oui. Complètement, avec les empereurs, surtout. Autant les petits Adélie, ils vous ignorent complètement, vous les dérangez plus qu'autre chose. Mais les empereurs sont curieux. On essaie bien sûr interdit de les toucher, de s'approcher trop près, mais ouais. Eux-mêmes viennent souvent vers vous, regarder un peu, qui sait, qu'est-ce qui se passe. Et puis, donc parfois, vous suivez, effectivement, surtout les petits, quand ils commencent, les poussins, quand ils commencent à courir de partout, ils se perdent un peu, ils vous voient, ils vous suivent comme si vous étiez les parents.
Ouais.
Donc oui, c'est très attachant. De les voir.
Ouais. Et on sentait dans la voix de Luc Jacquet un peu de nostalgie, un peu de peine, de cafard à partir et à quitter définitivement ces manchots. Vous évoquez aussi le moment où l'Astrolabe revient vous chercher après 12 mois passés dans cette base antarctique. Alors c'est la délivrance, mais c'est aussi un peu une peine de quitter ce lieu. Dans quel état d'esprit vous êtes parti de l'Antarctique après 12 mois passés là-bas?
Oui, bah, c'est un état d'esprit très partagé. En même temps, vu qu'on est quand même confiné finalement dans une surface qui n'est pas si grande, on a hâte d'aller voir un peu plus loin, de renaviguer, de retrouver des plus grands espaces. Mais en même temps, quand en plus tout s'est bien passé, on sait très bien qu'on va laisser derrière soi des choses qu'on est presque sûr de jamais retrouver, et notamment les manchots qui comptent énormément.
Ouais.
Et puis toute cette magie, on se doute qu'une fois rentré, on va se demander si c'était réel ou pas.
Ouais. Ça vous a manqué?
Oui.
Ouais.
Oui, oui.
On le sent, hein, vous avez de la nostalgie en nous en parlant de cette Antarctique et de cette base. Des questions sont arrivées pour vous. Est-ce que cet Astrolabe dont on parle, hein, le troisième du nom, c'est aussi lui qui a été le premier navire européen à traverser le passage du Nord-Est, vous demande Marie.
Oui, Marie, on le raconte avec moult détails dans notre livre, l'Astrolabe, le passeur de l'Antarctique. Et oui, et c'est... Pour faire très rapide, voire même très incongru, on est en plein putsch des généraux dans l'Union des républiques socialistes et soviétiques en URSS, et l'Astrolabe va être un peu livré carrément à lui-même au milieu des glaces. C'est complètement, c'est un scénario hollywoodien et on raconte tout dans le livre.
Alors, rapidement, quelle sera la nouvelle vie? Parce qu'en fait, l'Astrolabe ne prend pas complètement sa retraite, il va être recyclé.
Il a été remplacé, Daniel, puisque les navires ont une durée de vie comme les voitures, les machines à laver. Elle est un peu plus longue, et l'Astrolabe a été remplacé l'été dernier par un nouvel Astrolabe, quatrième du nom, ouais. Et qui a la particularité d'être avec un équipage de la Marine nationale et avec du personnel de l'Institut polaire l'IPEV. Mmh. Donc un tiers de l'année, il fait toujours les mêmes missions que l'Astrolabe troisième du nom, donc il ravitaille la base du Mont-d'Urville en Antarctique, et les deux tiers de l'année restant, il est basé depuis la Réunion, et il surveille les zones économiques exclusives des terres australes et antarctiques françaises, Kerguelen et Crozet, et il surveille les intérêts français dans l'océan Indien.
D'accord, alors ça c'est pour le remplaçant, mais je croyais que l'Astrolabe actuel était devenu une sorte d'hôpital.
Un navire hôpital, tout à fait, il a été vendu à une ONG nord-américaine baptiste qui s'en sert et qui l'a repeint en blanc et bleu ciel, et il sert de navire hôpital en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Voilà, donc il n'a pas complètement fini sa carrière de bateau, c'est cet Astrolabe, mais il ne s'appelle plus l'Astrolabe. Allez, je vous présente nos invités de la deuxième heure. Nous allons plonger avec eux dans un monde moins vertueux, avec des histoires moins glorieuses que celles que vous nous avez racontées. Bonjour Éric Valmire et Jacques de Saint-Victor.
Bonjour. Bonjour.
Alors avec vous, nous allons donc plonger au cœur de la mafia italienne. Jacques de Saint-Victor, vous êtes historien universitaire, auteur du livre Un pouvoir invisible chez Gallimard. Et Éric Valmire, vous êtes journaliste, chef du service reportage à France Inter. Et vous avez été auparavant 6 ans correspondant en Italie pour Radio France. Vous auriez pu vous exiler, Éric Valmire, jusqu'en Antarctique pendant 6 ans pour Radio France. Vous l'auriez fait, ça ?
6 ans, c'est la durée en fait. J'aurais pu, mais 6 ans, je n'en suis pas sûr.
Ouais, 6 ans, ça aurait peut-être été un peu long. En tout cas, on va voir ce qui s'est passé pour vous en Italie et puis vous nous parlerez aussi de vos reportages sur la mafia. Un grand merci à vous, Stéphane Dugast et Daphné Buiron.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Astrolabe, le passeur de l'Antarctique, aux éditions EPA. Et puis Daphné Buiron, vous avez aussi publié avec Catherine Cordasco, aux éditions Dupommier, un livre jeunesse, Le Grand Voyage de l'Astrolabe. Merci à tous les deux. Dans un instant, on a rendez-vous en Italie avec la mafia.